en séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Madame, Monsieur, bonjour. Chaque lundi, les académiciens de l'Académie des sciences morales et politiques, réunis dans la salle des séances, écoutent une communication lue par un académicien ou par un invité extérieur. En 2005, le président Monsieur Jean Tullard a choisi pour thème l'histoire et plus précisément, peut-on faire confiance aux historiens ? Le lundi 12 décembre, c'est le philosophe Bernard Bourgeois qui s'exprimait sur la fin de l'histoire. Rappelons brièvement que Bernard Bourgeois est agrégé de philosophie, qu'il a été le doyen de la faculté de philosophie de Lyon et qu'il préside la Société française de philosophie. Il assure par ailleurs la direction de la revue de métaphysique et morale qui était présidée par Paul Ricoeur. Monsieur Bourgeois a consacré un important ouvrage à Hegel dont il est l'un des meilleurs spécialistes. Pour écouter Monsieur Bourgeois sur la fin de l'histoire, nous rejoignons tout de suite la salle des séances.
Eh bien, Monsieur le Président, Monsieur le Chancelier honoraire, Monsieur le Chancelier imminent, Monsieur le Secrétaire perpétuel, mes chers confrères, Mesdames et Messieurs, la fin de l'histoire est devenue l'objet d'une question non seulement philosophique, mais plus largement politico-culturel, lorsqu'il y a une quinzaine d'années, l'antagonisme de l'Est et de l'Ouest, dans lequel on voyait le moteur ou un moteur des vicissitudes historiques, s'est arrêté dans la chute, dans l'effondrement du protagoniste oriental. Alors que c'est à l'Est que l'on avait affirmé pendant des décennies réaliser la fin déjà chantante de l'histoire, la proclamation que cette histoire était finie se fit soudain occidentale. Et ce fut, et c'est là tout un symbole, me semble-t-il, dans le propos d'un extrême oriental venu boucler dans l'ouest absolu de l'Amérique l'immense parcours de l'aventure humaine du levant au couchant. Ce propos surprit, choqua, fit rire. L'histoire n'enseigne-t-elle pas qu'elle est toujours nouvelle, comme la nécessité ou la liberté, peu importe, qui s'exprime en elle. Notre confrère Pierre Chaunu, si présent parmi nous en son absence forcée, déclare fort justement que l'imprévu est à la vérité seul prévisible. Francis Fukuyama, lui, n'est pas vraiment nouveau. Il n'est pas tant sans faux l'inventeur du thème, mais son intervention contribua, me semble-t-il, à faire accéder ce thème au statut d'une question devenue manifeste et publique, tandis qu'auparavant, ce thème n'existait guère encore comme question à l'Ouest, et à l'Est ne faisait plus question dans sa solution dogmatiquement imposée. Notre Académie consacre aujourd'hui une telle question, question à laquelle, Monsieur le Président, vous m'avez commis, mais aussi mis, car elle est totale, cette question, donc difficile, et la réponse, surtout brève, mais ce n'est pas une excuse, ne peut être que médiocre. Quelle vérité peut-on accorder au jugement ? C'est la fin de l'histoire. Et d'abord, pour le moins, à quelles conditions peut-on juger ainsi, sans se contredire et déraisonner ? Je commencerai par observer que l'affirmation de la fin de l'histoire, si elle est développée exhaustivement, est double. Elle pose d'abord que l'histoire est par essence finie, ensuite que sa fin existe maintenant. J'examine donc à quelles conditions, d'abord internes à la pensée, ont un sens. D'abord, le jugement d'essence, l'histoire a une fin, puis le jugement d'existence, la fin de l'histoire, c'est aujourd'hui. Mais le jugement d'existence, quelque consistant, cohérent qu'il soit en lui-même, requiert sa confrontation avec l'aujourd'hui réel, et si inépuisable et brouillé que soit cet aujourd'hui réel, Je me risquerais, oui, j'en ai parfaitement conscience, je risquerais gros d'ailleurs, je me risquerais à découvrir dans cet aujourd'hui réel une raison de confirmer, au moins comme sensée. C'est là une restriction, mais je crois que c'est déjà beaucoup, une raison de confirmer, au moins comme sensée, l'affirmation de l'achèvement actuel de l'histoire. Qui peut bien prononcer, dans le registre du raisonnable, sinon du vrai, la clôture de l'histoire? Qui peut énoncer ce performatif des performatifs, aussi bien dire ultime que faire ultime, que la déclaration « l'histoire est finie » ou « c'est bien le lieu de dramatiser la pièce, la tragédie est jouée ». Les acteurs, les spectateurs ou l'auteur de la pièce, de la grande, de la folle journée de l'histoire. Ceux qui l'ont faite ou qui l'ont fait faire par les peuples ne veulent pas et ne peuvent pas dire l'histoire achevée. Ils ne le veulent pas. Ils se sont bien plutôt pris pour des inaugurateurs que pour des finisseurs, tels les révolutionnaires français qui croyaient procéder à la seconde genèse du monde, sa genèse humaine, donc juste, et par là vraie. Ils ne le peuvent pas non plus, ni en droit, ni en fait. D'une part, même lorsque tel Alexandre, César, Napoléon, ben oui, Napoléon aussi, ils se sont donnés comme champ d'action le monde, leur action nécessairement déterminée, donc limitée comme tout ce qui est réel, est leur passion. Rien ne se fait de grand sans passion, c'est-à-dire sans pâtir. Leur passion, de ce fait limitante, c'est un pâtir, leur interdisait l'une et l'autre toute clôture générale de l'histoire. D'autre part, enfin, arrachés prématurément par la mort ou par l'échec à leur œuvre, ils n'ont pas davantage eu la possibilité que l'autorisation de déclarer cette œuvre finie et avec elle l'histoire. Quant aux spectateurs, eux-mêmes historiques, et en cela toujours plus ou moins aussi acteurs de l'histoire, les historiens de celle-ci, ces autres penseurs, ils semblent pouvoir tout au plus dire immédiatement et absolument qu'elle finit, qu'elle est en train de finir, ce qu'elle est d'ailleurs depuis le commencement, et qui donc ne veut pas dire grand-chose, mais ils ne peuvent pas dire qu'elle est finie. Car ce verdict, variante collective de l'intenable, de l'impossible jugement « je suis mort », ne pourrait pas ne pas être pour lui-même, par l'importance de son contenu, un acte, un nouvel acte démentant ce qu'il dit clos, et au surplus, un acte désireux de se prolonger en cet heureux effet de lui-même, consistant en ce que c'est profitable aux survivants que de savoir qu'ils sont morts, plutôt que de s'évertuer comiquement à vivre encore. Aussi bien les penseurs raisonnables de la fin de l'histoire ont-ils saisi cette fin comme ayant une durée, comme aussi et encore à venir, et comme permettant de la sorte aux hommes de se préparer une meilleure fin. Or, l'annonce de cette fin qui dure, que son existence prolongée ne peut pas faire percevoir comme une durée finie, ne s'assure-t-elle que dans et par la pensée, oui la pensée et non pas la perception ou l'expérience, que par la pensée de l'histoire comme étant par essence finie, et par conséquent totalisable, par-delà les faits, ou en deçà des faits, totalisable en un sens exhaustif d'elle-même. Quant à ce sens total, comme tel non perceptible, car toute perception Toute expérience est particulière et donc partielle. Ce sens total ne peut avoir son site que dans l'être lui-même totalisant d'un esprit universel. Je ne suis sûr que l'histoire est totalisable que si je la pense à tort ou à raison, peu importe, que si je la pense comme déjà en soi totalisée, dans un esprit universel pleinement présent à lui-même, dans la pensée qu'il a de cette histoire. Je ne puis dès lors dire que l'histoire est finie qu'en logeant ce jugement dans l'auteur de la pièce, qui seul me rend un spectateur, acteur véridique de celle-ci. Que doit donc être un tel esprit ? Il ne saurait être l'esprit humain générique ou universel, l'humanité ou le grand être cher à Auguste Comte. Car cet être est sans cesse porté au-delà de lui-même par son immanence, toujours créatrice, à une histoire qui est encore en marche. Il ne peut être pensé que comme l'esprit transcendant, métahistorique, d'un Dieu qui cependant se fait histoire, fixant le centre de celle-ci au point de l'incarnation, et bouclant le cercle de sa révélation du jugement premier déclarant bonne la nature créée au jugement dernier qui sauve le cours spirituel de l'histoire. La théologie chrétienne a bien été le lieu de l'affirmation conjointe originelle d'une histoire universelle et d'une fin de l'histoire. Philippe Ariès, ce superbe historien, tout autant historien de l'histoire et philosophe de l'histoire, dans son si beau recueil, Le temps de l'histoire, découvre précisément l'histoire. Deuxièmement, l'histoire universelle véritablement telle, c'est-à-dire unifiante, et donc au moins en soi philosophante, et troisièmement, la philosophie de la fin de l'histoire, il les découvre toutes trois, originellement unies, dans leur germe théologique chez l'auteur chrétien de la Cité de Dieu. De la double identité, histoire et histoire universelle d'une part, histoire universelle et histoire finie d'autre part, je ne retiendrai assurément ici que le second moment, car il serait incongru et imprudent de ma part de sembler toucher aussi ferme commencement, bâti pour cette série de conférences par mon éminent voisin Jean Béchler, quant au rapport de l'histoire universelle et de l'histoire. C'est de la naissance solidaire, donc de la conscience agissante de l'histoire universelle concrètement pensée comme histoire totale et de la pensée de la fin de l'histoire que je voudrais rapidement dégager l'héritage pour la pensée accomplie, c'est-à-dire philosophique, de cette fin. Voici, me semble-t-il, l'acquis augustinien qui me paraît quadruple. Premièrement, la fraternité universelle, qui est enveloppée dans la paternité universelle du Dieu chrétien, universalise ou unifie spatio-temporellement l'histoire, par-delà les histoires segmentaires, même soumises aux enchaînements causaux de l'Antiquité. Deuxièmement, cette histoire une ou universelle se déploie dans une réalisation téléologique, finalisée en cela sensée d'elle-même, vers une fin au sens de but, vers une fin but dernière. Troisièmement, une telle eschatologie fait également se clore cette réalisation dans une fin, ici au sens de terme, de terminaison, dans une fin terme qui totalise effectivement l'histoire, parce que la vie éternelle, la vie réconciliée avec soi, la vie identique à soi, ferme sa différenciation de soi temporelle en une totalité comme telle finie. Le français latinisant, pour une fois plus spéculatif que l'allemand, identifie ici dans une heureuse ambiguïté Le but et le terme dans le même mot, fin. Quatrièmement, et c'est ici que je veux en venir, la fin-but se réalisant, suivant le langage humain, après la fin-terme de l'histoire, et par là elle-même insérée en son existence, dans une relation au moins quasi-historique. Et cette imprégnation historisante se confirme en ce que son contenu éternel apparaît comme étant lui-même une sorte d'histoire. Une histoire, certes, purement spirituelle, en quelque sorte supra-historique ou éternelle, celle de la béatitude. C'est ainsi que saint Augustin fait déboucher, c'est la fin de l'ouvrage, il fait déboucher le septième et dernier jour de la grande semaine de l'histoire, le jour en repos du jugement ou de l'arrêt divin. À travers un passage qui n'en est plus un, car ce septième jour n'a pas de soir, dit Augustin. Il le fait déboucher dans un huitième jour, celui de la béatitude de l'âme qui retrouve son corps ressuscité. Huitième jour qui, comme un nouveau jour, poursuit d'une certaine mesure, dans une certaine mesure, l'histoire, mais comme jour huitième, jour d'après la semaine historique des sept jours, comme jour éternel, n'est plus l'histoire, elle, en tant que proprement histoire, bien finie. La fin de l'histoire est donc réelle, elle clôt réellement l'histoire, mais en s'ouvrant, fin sans fin, à, et mieux, en la vie éternelle, qui pour un être fini, est bien encore une sorte de devenir, une histoire transfigurée, infiniment post-historique. Cette fin paradoxale, tout comme la totalité, la finalité et l'unité ou universalité de l'histoire, seront l'objet de la laïcisation rationnelle opérée plus ou moins par toutes les philosophies de l'histoire. La rationalisation philosophique de l'affirmation augustinienne, une affirmation qui est d'ailleurs reprise, entre autres, religieusement, par exemple, par l'abbé de Flore. Cette rationalisation philosophique de l'affirmation augustinienne de la fin sans fin de l'histoire, où se récapitule tout l'acquis de la première théologie de l'histoire, va libérer l'idée de cette fin, quant à son statut, de son lien initial à l'idée d'une fin d'une part naturelle, c'est infrahistorique, et d'autre part surnaturelle, c'est suprahistorique, du monde lui-même ou du temps mondain lui-même. Et par conséquent, cette même rationalisation va rapporter le contenu d'une telle fin de l'histoire, à savoir la totalisation finalisée proprement historique, à la seule action immanente de l'humanité, celle-ci étant prise en sa nature empiriquement manifestée, philosophiquement exprimable, donc raisonnable ou rationnelle. Or, et c'est là l'important pour notre thème, la reconquête philosophique, ou la conquête philosophique, de l'affirmation théologico-religieuse de la fin de l'histoire se clôt dans une novation capitale de sa reprise, ce qui me permettra de passer dans quelques secondes au deuxième moment. Elle aboutit, cette conquête philosophique de l'acquis théologique. Elle aboutit en effet à la réunion, par la raison, de l'histoire qui est dite avoir une fin et d'un tel dire présent que l'histoire a une fin. Car un tel dire présent ne peut chez et pour le philosophe qui tient ce dire et ce discours. Se justifier lui-même qu'en disant que la fin de l'histoire est elle-même déjà présente. L'affirmation présente de la fin présente de l'histoire se prépare certes comme tout ce qui est moderne chez Kant. Mais celui-ci ne dit pas cette fin objectivement, en sa réalité proprement historique. Hegel seul ose la dire telle, et il le fait, à mes yeux, nettement, la brièveté de son affirmation explicite que l'histoire est finie aujourd'hui, se comprenant parfaitement, puisque c'est le discours hégélien tout entier qui se totalise sans contradiction, avec nécessité, en cette affirmation, et qui la rend nécessaire. Si sur ce point Hegel a erré, tout son discours est faux. L'affirmation sera reprise de façon répétitive, mais oscillante, hésitante, problématique, voire contradictoire chez Marx. Contradiction, car Marx la loge, cette affirmation, dans le contexte d'une conception antifinaliste de l'histoire. C'est donc en vérité au thème hegélien en lui-même consistant dans ce qu'il a de révolutionnaire et d'inouï, c'est dans au thème hegélien de la fin de l'histoire comme fin actuelle que la première réflexion la plus longue, Monsieur le Président, vient de nous conduire. La question devient ainsi celle-ci: comment penser de façon raisonnable à travers Hegel la proposition que la fin de l'histoire, c'est aujourd'hui. Je vous invite, si vous permettez, je vous invite à hegelianiser un petit moment. D'abord, en compagnie des deux hegeliens qui ont remis le thème à l'ordre du jour, aussi faux hegeliens l'un que l'autre, si l'un d'eux, cependant, est absolument génial. Puis, nous hegelianiserons à l'écoute d'un vrai hegelien. Kojève et Fukuyama. Ça me gêne un peu de passer de Saint-Augustin à Kojève et Fukuyama, mais enfin, je ne peux pas séjourner trop longtemps dans l'entre-deux. Kojève passe encore, Fukuyama, ça me gêne beaucoup. Enfin, Kojève et Fukuyama, qui se dit kojévien, se proclament tous deux hegeliens. Leur affirmation que l'histoire, dans leur aujourd'hui respectif, le milieu du siècle pour Kojève, la fin du siècle pour Fukuyama, leur affirmation que l'histoire est achevée s'appuie en effet sur une considération rationnelle. C'est pas simplement une affirmation qui repose sur un constat historique. Elle repose sur une affirmation rationnelle, et cette affirmation rationnelle, elle est empruntée à Hegel. Considération rationnelle. On ne peut en effet passer du simple constat comme tel factuel. Un constat, on peut souvent en opposer d'autres. Donc on ne peut passer du simple constat comme tel factuel, donc contingent. Que le monde actuel est universellement tel ou tel, c'est-à-dire essentiellement libéral, ou c'est la démocratie libérale qui triomphe partout. Au jugement qu'il est tel définitivement, que par un raisonnement démontrant qu'il est identique à ce qui est d'abord démontré comme essentiel, et donc, une fois réalisé, définitif, chez l'homme. Considération rationnelle hegelianisante, hegelianisante plus qu'hegelienne, car elle me semble erronée. Kojève et Fukuyama absolutisent comme essence de l'homme la manifestation anthropologique, dite anthropogène, par Kojève, la manifestation humaniste de la grande équation qui définit le hegelianisme, à savoir l'équation théo-ontologique de la substance et de la subjectivité, de l'être universel et du soi singulier qui constitue la vie absolue. Une telle manifestation anthropologique de l'absolu est la reconnaissance humaine universelle de la singularité subjective. Chaque soi reconnaît le tout des autres soi qui le reconnaît, par conséquent, dans une satisfaction parfaite. C'est le désir de cette reconnaissance qui meut une histoire, au contraire arrêté quand ce désir est comblé. Voilà ce que le aujourd'hui réalise aussi bien pour Fukuyama que pour Kojève, un aujourd'hui qui ne caractérise cependant pas de la même façon comme fin actuelle sans fin de l'histoire. Pour Kojève, l'aujourd'hui est en son être véritable sous-jacent à ses apparences. Il est la fixation définitive de l'histoire à l'état homogène universel, l'état homogène issu de l'égalisation révolutionnaire, l'état universel visé dans l'empire napoléonien. Cet état de la reconnaissance universelle des individus est celui que l'actualité de Kojève, que l'actualité aussi bien capitaliste que socialiste ne fait que déployer, l'état capitaliste étant pour Kojève un état socialiste qui s'ignore, il est tel pour ce génial, car c'est lui bien sûr qui est le génie, pour ce génial mais falsificateur historien de la pensée qui se plaît à découvrir déjà Marx en Hegel. Kojève eut sans doute bien mal compris qu'on lui imputa à crime un espionnage au profit de l'URSS, car espionner le même au profit du même ne saurait guère être qu'un jeu. Et il est vrai que la politique en soit réconciliée une fois pour toutes, n'ayant plus d'enjeu ni d'intérêt réel, sa gestion nécessaire n'étant que stimulation ludique, le temps sans fin ouvert par la fin de l'histoire ne peut être rempli que par un esthétisme en quête de nouveautés formelles, tel le snobisme à la japonaise qui séduit Kojève. Mais il faut bien dire contre celui-ci qu'un tel sans fin ludique, sans activité ou négativité réelle, contredit trop l'essence active ou négative d'abord attribuée à l'homme pour pouvoir satisfaire cet homme véritablement. Et il faut dire aussi, qui plus est, que cette pensée kojévienne, ainsi en elle-même contradictoire, suppose un aujourd'hui politique dont la réconciliation prétendue définitive a été renversée en 1989 par un aujourd'hui réel qui occidentalisait bien plutôt l'Orient. Le sérieux Fukuyama, point trop snob en dépit de ses origines, pouvait dès lors entrer en scène. S'il ne semble pas avoir beaucoup lu Hegel, il le distingue au moins de Marx. Mais l'aujourd'hui définitif, dont fort éloigné de la virtuosité spéculative de Kojève, est plus immédiatement rivé à l'existence empirique du monde actuel, il brosse le tableau dans La fin de l'histoire et le dernier homme, est en vérité bien peu hegelien. Car il est celui de la réalisation générale en cours de la démocratie libérale dynamisée socialement et d'abord par la rationalité scientifico-technique contre le nationalisme où se dévoirait naturellement le politique. Il y a chez Fukuyama une dégradation extraordinaire de l'État. Et Fukuyama, qui n'est guère hegelien, n'est pas non plus, et c'est pourtant ce qu'on pourrait exiger, il n'est guère fukuyamien, car il se montre, en la limitation du socle rationnel philosophique de son affirmation de la fin de l'histoire, lui-même sensible au constat inévitable de la précarité, de la faiblesse empirique du contenu de sa thèse, à savoir que l'État définitif, c'est la démocratie libérale dynamisée par une vie sociale qui est elle-même dynamisée par le progrès scientifico-technique, qui est un progrès infini et ne se recourbe pas dans un cercle comme un cercle pour s'achever lui-même. D'une telle précarité d'abord objective, en tant que discordance repérable entre le monde réel et ce qu'il dit qu'il est, notre confrère Emmanuel Leroy-Ladurie a fait une analyse inégalable dans sa passionnante conférence précisément sur la fin de l'histoire au colloque Le monde qui va naître. Cette précarité objective, Fukuyama l'avoue lui-même, tout comme il avoue la précarité subjective d'une telle fin de l'histoire qui dure dans l'ennui et l'insatisfaction, un ennui, une insatisfaction qu'il ressentait lui-même au point d'annuler tout son ouvrage, il y a 400 pages, dans les trois dernières lignes de celui-ci, en se demandant si l'humanité déçue n'allait pas repartir pour un nouveau voyage historique. Laissons donc, si vous le voulez bien, cette pensée de la fin de l'histoire qui, tout comme celle de Kojève, est désavouée et par elle-même et par son aujourd'hui réel, et interrogeant la pensée invoquée par toutes deux, et qui les a désavouées par avance, la pensée d'un vrai Hegelien, du vrai Hegelien, c'est-à-dire, Monsieur le Président, de Hegel lui-même. L'affirmation par Hegel de la fin actuelle de l'histoire fait corps en s'y fondant avec tout son discours de théologie concrète chrétienne conceptualisée. Hegel est, si j'ose dire, un Hegelien de droite. Mais quelle droite ? Il fait corps avec tout ce discours de Hegel et non pas seulement avec tel moment anthropologique de ce discours, un discours dont je voudrais quand même souligner en passant dont la systématicité, en dépit des rodomontades, n'a d'ailleurs guère été ébranlée jusqu'à maintenant. Cette affirmation hegelienne de la fin de l'histoire condense les points capitaux suivants. Premièrement, l'histoire et donc sa fin est essentiellement étatico-politique. Deuxièmement, l'histoire s'accomplit dans la figure définitive dont voici les composants. Lien rationnel du religieux et du socio-étatique. Puis, et c'est ce qui est remarquablement manqué chez Kojève et Fukuyama et qui me semble fondamental, lien rationnel de l'État et de la société, la force de l'État autorisant un dynamisme socio-économique dont le libéralisme foncier se soucie néanmoins, mais comme objectif second, de la nécessaire solidarité. Civisme personnalisant, confirmé moyennant des institutions qui limite la nécessaire technobureaucratie par l'autorité du pouvoir princier, expression monarchique du présidentiel, et la participation autogestionnaire des collectivités locales. Enfin, souveraineté définitive des États-nations dans le cadre du droit international et de ce que Hegel appelle le cosmopolitique et qu'on affaiblit parfois de nos jours en le désignant comme étant simplement l'humanitaire. Troisièmement, et ça me paraît encore plus important, l'État, cet universel réel, peut seul assurer par sa puissance exemplaire l'existence épanouie, même s'il ne les constitue pas. Il peut seul assurer l'existence épanouie, et dans la pensée et dans la réalité, des autres modes de l'universalisation de l'esprit, tous les autres modes culturels. C'est par l'État que quoi que ce soit peut se faire en lui, même sans lui, voire contre lui. L'acte suprême de celui que Hegel appelle le divin terrestre, consistant pour lui aussi, comme le fait le divin, à savoir se sacrifier, moins pathétiquement dit, à savoir se limiter au plus loin de tout étatisme révélateur de faiblesse. Aussi bien l'État rationnel hegelien fait-il que peuvent se déployer et se faire en lui une vie infra-étatique de l'économie à la culture et une vie supra-étatique de la culture à la religion et à la philosophie. Enfin, et je m'y attarde pour clore ce second moment un petit peu plus, car c'est explicitement notre thème, enfin quatrièmement. La fin actuelle de l'histoire universelle est celle de l'histoire de l'universel. L'histoire de l'invention millénaire, laborieuse, des structures universelles vraies de l'existence politique ou de ce que Hegel appelle le droit en général. Des structures qu'il n'y a plus, si j'ose dire, une fois qu'elles ont été découvertes, et découvertes une fois, car une fois c'est toutes les fois, einmal ist allemal. Elle ne consiste plus qu'à réaliser partout ces structures définitives, c'est-à-dire à les réaliser de manière progressive, de manière difficile, mais de les réaliser car cela se fera tôt ou tard. La tâche essentielle historique de la conquête spirituelle de l'esprit par lui-même est donc finie. Aucune détermination fondamentale est nouvelle, vraie, de l'esprit socio-économico-juridico-politique ne peut plus venir au jour. Bien sûr, la réalisation empirique particulière de l'acquis de l'histoire politique universelle se poursuit à travers des conflits toujours possibles entre les États nationaux, même en soi les plus égaliens, dans des vicissitudes qui requièrent toujours l'intérêt, l'agir et l'art politique de tous les individus. Mais l'essentiel dans ce domaine est désormais atteint. On sait ce qui est vrai. L'intérêt absolu de l'esprit est dorénavant ailleurs, là où le savoir des structures non objectivables, mais prises en leur caractère essentiellement subjectif, de représentations religieuses ou de concepts philosophiques de l'esprit absolu, ne peut être atteint que par un acte spirituel constamment à reprendre et à réinventer sans cesse en son exercice fini. Le temps d'après la fin de l'histoire est ainsi pour Hegel un temps rempli et sérieux. Il est, loin de l'esthétisme cogévien et de l'ennui fukuyamien, il est animé par l'intérêt désormais subordonné mais nécessaire de la gestion politique, de la gestion du politique, et par l'intérêt fondamental, alors objectivement libéré, de la vie absolue de l'esprit. Tel est l'aujourd'hui de Hegel, est-il le nôtre? Je réponds dans un troisième et dernier moment à cette question. Il pourrait d'autant plus l'être, être déjà notre temps, qu'il est en avance sur son propre temps, raison pour laquelle, à juste titre, le jeune Marx critiquait l'État pour lui, à tort, seulement bourgeois, dans son idéalisation hegelienne et non pas dans sa réalité encore inaccomplie. Et un tel aujourd'hui pourrait même être affirmé de nos jours avec encore plus de force comme étant le vrai, puisque son heureux destin l'a fait se vérifier dans sa victoire sur la longue et opiniâtre parenthèse de sa négation marxiste. Son affirmation comme fin actuelle de l'histoire se fortifierait de ce que son contenu politique fondamental, en dépit de l'accélération extraordinaire de l'histoire, son contenu serait resté le même en près de 2 siècles. L'aujourd'hui de Hegel pourrait donc bien être le nôtre, mais enfin l'est-il, il faut répondre. C'est à chacun de vous, bien sûr, d'en juger. En confrontant avec notre présent réel l'esquisse infiniment trop schématique que j'ai proposée il y a un instant de l'État rationnel hegelien. Je crois, quant à moi, Monsieur le Président, pouvoir répondre oui. Et en ajoutant même que notre monde, qui semble bien hegelianisé sans le savoir, est encore souvent en deçà de ce qui peut alors, par exemple, en ce qui concerne l'articulation de l'économico-socio-culturel d'une part et du politique d'autre part, apparaître comme un objectif encore pour nous. Par nombre de côtés, le hegelianisme semble ainsi pouvoir éclairer de façon féconde notre époque sur elle-même. Et cela ne vaut pas seulement pour ce qui est des déterminations objectives institutionnelles de la vie sociopolitique, mais l'esprit du temps paraît bien souvent dans les nations les plus avancées s'être détaché dans ses préoccupations majeures de la chose politique, oubliant seulement que ce détachement spirituel suppose l'engagement maintenu de tous en vue d'assurer la subsistance de la condition réelle de toute vie suprapolitique, c'est-à-dire l'État politiquement fort et socialement libéral. Il y a certes les grands défis représenté pour le hegelianisme par l'entreprise de construction d'une Europe politique et par la nécessité de maîtriser politiquement la négativité de la mondialisation socio-économico-culturelle, mais il ne m'apparaît pas du tout sûr que sera démenti par les faits, dans l'un et l'autre cas, le rejet hegelien de toute intégration définitive des États-nations dans une structuration politique forte, déjà continentale, et a fortiori mondiale. Assurément, la gestion politique du devenir empirique, comme tel changeant du monde, peut rencontrer dans le bouillonnement surexcité de notre époque des situations que nul, il y a 2 siècles, ne pouvait prophétiser, et qui peuvent surprendre cette gestion politique du présent. au point de l'inciter à modifier ses principes légués par une histoire qu'on ne pourrait alors plus dire close. Ainsi, ce n'est qu'un exemple, ainsi de nos jours, le terrorisme qui se mondialise lui aussi. Ce terrorisme fait réagir à des événements qui ne sont plus strictement tels, c'est-à-dire des événements, à savoir des condensations originales de processus positifs, constructifs, mais des événements qui sont plutôt des coups qui trouent et affolent le devenir historique, suscitant par leur négativisme des ripostes également négatives, plus policières que proprement politiques. Un tel engagement nihiliste des deux côtés, l'attaque et la riposte, un tel engagement nihiliste, sorte de naturation qu'on me permette ce vilain mot, sorte de naturation bilatérale de l'histoire, la foudre islamique, la tempête du désert américaine. Un tel engagement nihiliste, sorte de naturation bilatérale de l'histoire qui ne se veut pas seulement métaphorique, ne saurait cependant égaler en ses effets la puissance spirituelle des grandes causes positives, désormais absentes, qui portaient la vie politique à l'époque vraiment historique où elle créait ses structures universelles essentielles. Bref, l'acquis politique de l'histoire ne me semble pas actuellement remis en cause dans ses principes, c'est-à-dire fondamentalement. Et pourtant, ou « mais voilà », comme aimait dire Kojève, « mais voilà ». L'action politique se voit de nos jours imposer un objectif non proprement politique, plus précisément infra-politique, absolument nouveau, du moins à sa dimension. Quelle seule l'action politique peut et doit prendre en charge directement, de telle sorte que l'histoire, comme histoire essentiellement politique, serait, semble-t-il, par ce nouvel objectif, relancée dans l'exigence d'une créativité retrouvée d'elle-même et la renaissance d'un intérêt majeur pour elle-même. Cet objectif ne concerne plus le rapport strictement historique et politique des hommes les uns avec les autres. Cet objectif concerne le rapport primaire des hommes à la nature. La politique, d'abord par son but politique de l'histoire passée, a pu se déployer sur la base d'un rapport assuré, ne faisant plus au fond vraiment problème, à une nature certes résistante en sa passivité générale, mais maîtrisable et possédable. Or, l'exploitation surtout industrielle de cette nature a fait surgir à notre époque la grave question écologique dont les écologistes d'ailleurs ne me semblent pas avoir pris toute la mesure. Sans parler d'autres dangers, nucléaires par exemple, l'agir aveugle et imprudent des hommes a suscité la menace, par exemple, de l'épuisement planétaire des ressources énergétiques accessibles, ainsi que de la dégradation de la biosphère et à travers eux la menace d'une nature rendue hostile. Celle-ci pourrait d'ailleurs se montrer, elle aussi, en déjouant les interventions humaines redoutées par la bioéthique, sur une espèce privée des fins équilibres conditionnant son humanité. Ces provocations peuvent accélérer le réveil, hélas, à terme, naturellement nécessaire, de la nature, son réveil à sa violence native, d'une puissance tellement incommensurable avec toute la puissance artificielle des hommes. Hegel que j'évoque une dernière fois. Hegel qui rappelle que le ciel et la terre passeront, et d'abord comme humainement vivables. Hegel voit dans la terre le vivant, oui, un vivant, le vivant élémentaire, fruste et en cela redoutable, simplement endormi, mais dont la veille météorologique de surface peut elle-même se déchaîner. La grande chimie de la nature, c'est l'expression de Hegel, la grande chimie de la nature, qu'est pour lui le processus météorologique, peut bien être le destin de toute la chimie humaine. De la sorte, après l'histoire métaphorique de la nature et de ses catastrophes. Puis, celle-là apaisée, l'histoire proprement historique de l'esprit surmontant ses crises, dans une nature rabaissée à être son simple milieu, son simple théâtre, voici donc peut-être, je dis bien peut-être, voici donc peut-être venu. Et je crois que le dire n'est pas forcément versé dans la mythologie. Voici donc peut-être venu le temps du retour offensif de la nature et de la géographie au cœur de l'histoire. Leur retour, mais comme d'un acteur de cette histoire, de son acteur un jour à venir nécessairement principal, et dont l'intervention massive, imprévisible, ne pourrait que gravement affecter la gestion politique maîtrisée du monde, selon le sens universel qui a été déposé en lui par l'histoire. Il y aurait là non plus la naturation dont il était question tout à l'heure, simple mimétisme historique tardif de la nature, mais un investissement de l'histoire par la nature se réveillant en elle. C'est pourquoi l'État, qui tout en maintenant à sa force l'acquis politique structurel de l'histoire, et en intensifiant dans un contexte désormais plus incertain son rôle de chevalier de la culture et de l'esprit, l'État qui peut et doit se fixer comme objectif et intérêt prioritaire réel le combat international pour la conservation la plus longue des conditions élémentaires d'une vie humaine, un tel État est voué à un avenir qui ne peut plus se développer en sa pureté historico-politique. L'historique peut être désormais à la merci du tellurique et du cosmique. Et cette seule pensée, même erronée, devenue hantise, change profondément la gestion politique des choses. C'est bien une nouvelle ère du devenir humain que peut ouvrir la fin actuelle de l'histoire, prise dans le sens restrictif mais essentiel, comme je l'ai fait. C'est bien une nouvelle ère du devenir humain que peut ouvrir la fin actuelle de l'histoire et dont le cours ne pourra ressembler à tout ce qu'a été jusqu'ici, ce qu'on a appelé l'histoire. Une ère qui peut dès lors être dite, on a souvent employé le terme, mais je crois qu'ici, il est employé dans un sens plus négateur de l'histoire, une ère qui peut dès lors être dite post-historique, comme il y a eu une ère préhistorique du devenir de l'humanité. En ce sens, l'affirmation d'une fin actuelle de l'histoire est possible, sans procéder de la méconnaissance, de la nouveauté, peut-être, ou sans doute, radical du temps dans lequel nous entrons aujourd'hui. Une phrase, comme il se doit, éthique de conclusion. Si les choses sont comme il vient d'être supposé, la fin norme, pour le moins hyperbolique, régulatrice, enveloppée par l'actualité concrétisée de la fin de l'histoire, doit consister, entre autres tâches, à préparer dès maintenant, car l'absoluité de la responsabilité morale relativise toutes les considérations de temps, à préparer à travers toutes les générations à venir, la dernière génération, s'il en est une, des hommes, en l'armant techniquement comme spirituellement, à vivre le moins tragiquement possible, la vraie fin, la fin absolue de l'histoire à la fois historique et post-historique, celle où il n'y aurait, où y aura, plus personne pour prononcer, et ce serait alors pourtant toute connaissance de cause, et non, comme je l'ai fait, par nécessité, comiquement, le jugement, l'histoire est finie.
Vous venez d'entendre la communication de Monsieur Bernard Bourgeois devant l'Académie des sciences morales et politiques, le lundi 12 décembre 2005.